tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure, en direct sur Radio Grenouille, à 13h30. C'est irrégulier.
Et en direct.
Chouette, chouette.
Mais c'est toujours à la même heure.
Des bruits de gouttes, des fauves, il faut imaginer tout ça dans une grotte. C'est la bande sonore du site internet, un petit film de présentation de Chauvet Pont-d'Arc, le premier chef-d'œuvre de l'humanité. Mon invité aujourd'hui, c'est Pedro Lima. Bonjour Pedro.
Bonjour Pascal.
Tu es le co-auteur de ce livre Chauvet et Pont-d'Arc, le premier chef-d'œuvre de l'humanité. On continue à entendre les bêtes sauvages derrière nous. Révélé par la 3D, je pense que c'est le titre en entier, aux éditions Synops avec le photographe Philippe Psaïla. C'est ça.
Tout à fait.
J'essaye de le prononcer correctement. Vous avez déjà réalisé ensemble un ouvrage, Les Métamorphoses de Lascaux, l'atelier des artistes de la préhistoire à nos jours. En 2012.
Absolument.
Et vous vous êtes retrouvé pour ce livre sur Chauvet-Pont-d'Arc. Ça n'est pas pour rien qu'on en parle aujourd'hui, puisque l'inauguration de la grotte Bis va avoir lieu dans quelques jours, Pedro.
Vendredi, tout à fait.
Donc vendredi 25 avril.
Donc vendredi 25 avril, c'est l'ouverture au public de cette grotte Bis, de ce fac-similé. Et ce vendredi 10 avril, c'est l'inauguration officielle avec les huiles, les représentants de l'État.
Ah ouais, tu vas y aller.
Je serai parmi eux.
Voilà. Et tu es avec nous aujourd'hui, puisque journaliste scientifique, spécialiste de la préhistoire et de l'art pariétal, tu vas nous expliquer comment on arrive à être spécialiste journalistique de ce domaine particulier. Tu vas nous parler non seulement de ce livre qui vient de paraître, qui est très particulier parce qu'il complète merveilleusement le projet, mais peut-être aussi resituer l'ensemble du sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord la grotte elle-même, le projet scientifique de reconstitution intégrale de ce chef-d'œuvre, et évidemment le livre qui complète aussi merveilleusement ce projet. Donc peut-être qu'il faut rappeler où est cette fameuse grotte Chauvet, quand est-ce qu'on l'a découverte et qu'est-ce qu'elle a de si merveilleux, de si extraordinaire.
Oui, c'est une histoire qui commence pour sa période moderne, on va dire, le 18 décembre 1994. Donc ça s'est passé il y a à peine plus de 20 ans. Et ce jour-là, on est à proximité de la ville de Vallon-Pont-d'Arc, donc en Ardèche, le long de cette rivière qui, après la ville de Vallon-Pont-d'Arc, passe sous un immense arche rocheux qui s'appelle le Pont d'Arc, donc qui est une formation naturelle formée un petit peu par la géologie et qui constitue une sorte de monument naturel qui est bien connu, y compris des gens qui font du canoë kayak et autres. Et donc ce 18 décembre 1994, trois spéléologues, Jean-Marie Chauvet qui donnera ensuite son nom à la grotte, Christian Hiller et Eliette Brunel, donc ces deux collègues qui sont des spéléologues confirmés, très endurcis, qui connaissent très bien la région, montent le long d'une falaise qu'on appelle la falaise du Cirque d'Estre, qui est à proximité de ce pont d'Arc, le tout formant donc une sorte de géographie monumentale et naturelle extrêmement impressionnante et qui a certainement dû, à l'époque préhistorique, déjà impressionner les hommes, les femmes, les chasseurs-cueilleurs. Et donc ces trois spéléologues font ce que font tous les spéléos en fait quand ils recherchent une cavité, lorsqu'ils sont en phase de prospection, c'est qu'ils passent leurs mains le long de la paroi rocheuse en étant très attentifs au souffle d'air qu'ils vont ressentir provenant de l'intérieur de la pierre. Et c'est exactement ce qui se produit ce dimanche après-midi, aux alentours de 14h. L'un des trois ressent ce souffle très vif qui s'échappe d'une toute petite anfractuosité dans la roche. Et ce dont ils se rendent compte, c'est qu'il est possible d'extraire des pierres, de dégager petit à petit une anfractuosité, puis ce qu'on appelle une chatière chez les spéléologues, c'est-à-dire un conduit relativement étroit, mais qui, selon la corpulence des uns et des autres, va permettre, en particulier à Eliette Brunel, la plus fine des trois, de pénétrer à l'intérieur de la falaise sur une dizaine de mètres. Et puis, après une excavation relativement complexe, relativement dure, déboucher sur le plafond d'une immense salle, parce que tout de suite, il y a cette résonance qui fait qu'ils réalisent tous les trois qu'ils sont face à un immense volume. Comme ils sont équipés, qu'ils sont des spéléologues affirmés, ils ont cette échelle en métallique qui va leur permettre, en la déroulant, de descendre sur une quinzaine de mètres dans le vide et de poser les pieds dans cette grotte qui ensuite s'appellera la grotte Chauvet ou la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Mmh. Et donc, ils commencent à explorer, comme le font tous les spéléologues quand ils se rendent compte qu'ils sont face à une première, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont les premiers à entrer dans ces lieux. Oui. Tout au moins, c'est ce qu'ils croient à ce moment-là.
Oui.
La grotte est absolument magnifique, splendide, c'est ce qu'ils racontent toujours aujourd'hui quand ils livrent ce témoignage. Ils ont tout de suite conscience d'avoir fait une découverte en termes géologiques, en termes minéralogiques, tout à fait extraordinaire et exceptionnel, car les volumes sont gigantesques, l'état de conservation des parois est parfait, il y a des cristaux qui brillent, il y a des concrétions calcaires, il y a des stalactites, des stalagmites à perte de vue, et tout de suite ils comprennent qu'ils sont face à un objet souterrain tout à fait extraordinaire. Et puis bien sûr, le choc encore plus énorme, encore plus immense, c'est après avoir traversé la première très grande salle qui aujourd'hui s'appelle la salle d'entrée, Eliette Brunel, la première, aperçoit sur la paroi un petit trait rouge tracé à l'ocre qui signe le passage des hommes et elle s'écrie à ce moment-là « Ils sont venus ». Et là on bascule dans complètement autre chose, oui, puisque cela veut dire qu'on est face à une grotte qui a été occupée et ornée, et de quelle façon par nos, oui, ancêtres de la préhistoire.
On va le voir, tu disais, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les premiers à pénétrer cette grotte, c'est-à-dire que les derniers à l'avoir occupée, c'est justement, il s'agit justement de ces hommes d'il y a extrêmement longtemps qui ont fait ce signe qu'elle a remarqué. Entre-temps, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'occupation.
C'est tout l'apport des recherches qui sont menées depuis 1998 dans cette cavité, d'avoir bien compris, d'avoir bien expliqué quelle a été la chronologie de la découverte, pour la première fois vraisemblablement par des hommes, de cette cavité, puis de ses occupations successives, parce qu'il y en a eu au moins deux, et puis d'un événement géologique qui a permis qu'elle nous parvienne intacte, oui, jusqu'à ce jour de décembre 1994. Donc ce qu'ont montré les scientifiques, c'est que des premiers hommes, et quand je dis hommes, je parle bien d'homo sapiens, et non pas d'hommes de sexe masculin, parce qu'on sait qu'il y a eu des femmes, on sait qu'il y a eu des adolescents à l'intérieur de cette cavité, donc de la période qu'on appelle aurignacienne, c'est-à-dire il y a 36 000 ans, 36 millénaires. Donc c'est à cette époque-là que ces premiers artistes pénètrent pour la première fois dans cette cavité et réalisent un fabuleux chef-d'œuvre, puisqu'on y reviendra un peu après, mais en gros, ils peignent un millier de figures environ sur les parois, dont en particulier de très grands animaux qui sont représentés avec une perfection technique et une maîtrise tout à fait absolue.
Et dans cet ouvrage d'ailleurs, il y a un bestiaire qui est énuméré avec une quantité invraisemblable d'animaux de toutes espèces et très bien représenté. On va venir à ça justement, mais tu parlais d'artistes. Et peut-être qu'on peut effectivement développer cet aspect-là.
Oui, donc ces premiers hommes à passer dans cette cavité réalisent donc ce chef-d'œuvre. Et ce qu'a montré la datation des charbons de bois qui ont été découverts dans la cavité, c'est que des milliers d'années plus tard, un autre groupe humain pénètre dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc, observe vraisemblablement à la lueur de torches les œuvres qui ont été réalisées 6 à 7 000 ans auparavant, par ces gens de la période aurignacienne, quittent à nouveau la cavité. Et puis ce qui se passe il y a 21 000 ans, c'est que l'immense porche qui ouvre à l'époque l'entrée de la grotte Chauvet-Pont d'Arc et qui fait qu'il y a 36 000 ans, il y a 30 000 ans, elle se voyait de centaines et de centaines de mètres à la ronde, eh bien une rupture de la falaise qui surplombe le porche entraîne son obturation complète. Et donc là, la grotte est complètement occultée, mise sous cloche d'une certaine façon, et c'est ce qui permet que, en décembre 1994, quand les trois spéléos y entrent à nouveau, la redécouvrent d'une certaine façon, elle nous est parvenue de manière tout à fait parfaite, tout à fait conservée. La conservatrice Dominique Baffier, qui a été conservatrice pendant de longues années de la grotte Chauvet, m'a toujours dit qu'elle avait ce sentiment quand elle rentrait dans la grotte Chauvet par son entrée actuelle. Elle avait toujours le sentiment que les peintres, les aurignaciens, étaient en train de la quitter par l'autre bout, à tel point il y a une fraîcheur, il y a une humidité qui fait que tout nous est parvenu parfaitement conservé.
Ce qui est extraordinaire, c'est quand on voit le paysage que tu décrivais tout à l'heure de la rivière et de ce pont en pierre, c'est que l'emplacement de la grotte est tout à fait visible. C'est-à-dire qu'on c'était là, sous les yeux, sous nos yeux, il y avait cette grotte obturée peut-être, mais elle était à portée de main en quelque sorte.
Elle était tout de même quelques dizaines de mètres derrière la paroi et il a fallu toute cette ingéniosité un petit peu des découvreurs pour retrouver une entrée qui n'était donc pas celle par laquelle pénétraient les préhistoriques. préhistoriques, les paléolithiques, puisque eux entraient par le vaste porche qui s'est entre-temps effondré. Et d'ailleurs, quand on rentre aujourd'hui dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc, on arrive toujours par cette entrée des spéléos. On descend une échelle, maintenant qui est beaucoup mieux aménagée, bien sûr. Et quand on pose le pied dans la salle d'entrée, on voit sur sa gauche l'énorme éboulis qui est le résultat de cette chute du porche il y a 21 000 ans et qui nous a permis cette conservation.
Alors toi, tu es un témoin, justement, puisque tu es allé dans cette grotte, la vraie, je dirais. Tu as aussi été dans celle qui vient d'être reconstituée.
Le fac-similé.
Tu vas nous parler de ça, le fac-similé. Et justement, qu'est-ce que ça fait comme effet? Qu'est-ce que ça procure comme émotion quand on arrive dans un espace comme ça?
Pour moi, ça s'est passé au mois de mai 2014, donc il y a presque un an. C'est pas évident de mettre ça en mots, bien sûr. C'est ce que je raconte un petit peu, en particulier dans l'introduction du bouquin. D'abord, il faut dire que quand on est journaliste scientifique et que depuis presque 20 ans, on écrit des articles sur la grotte Chauvet sans jamais y avoir mis les pieds, hein, ce qui est un peu le lot de quasiment tous les journalistes qui ont travaillé sur ce sujet, il y a une attente extrêmement forte. Et il y a autre chose qui se passe, c'est qu'on a généré dans son esprit une image mentale de cette cavité souterraine, en fonction de ce qu'on a lu, en fonction des images, bien sûr, en fonction des photographies qu'on a vues, en fonction du relevé 3D sur lequel on a travaillé. Et donc, on s'est ainsi préparé à cette visite en pensant avoir en tête un petit peu des repères sur ce qu'on va trouver. Or, ce qui frappe tout de suite, parce que c'est une expérience essentiellement sensorielle, c'est qu'on est tout de suite entièrement désorienté, entièrement déboussolé. On est pris un petit peu à la gorge, aux yeux, aux oreilles par ce volume gigantesque dans lequel on a justement extrêmement de mal à poser des repères. Il y a ce milieu très particulier qui est le milieu souterrain, avec une humidité, avec une fraîcheur, avec une sonorité qui est complètement différente de celle qu'elle est à l'extérieur. Et puis, il y a aussi cet état de conservation tout de suite, avant même qu'on voit les premières peintures, les premiers dessins réalisés à l'ocre et au charbon de bois, qui est que les sols sont parfaitement conservés, ils gardent la trace de milliers d'ossements d'ours fossilisés. Il y a cette beauté minéralogique qui a frappé les découvreurs, mais qui saute également aux yeux. On a vraiment l'impression d'être dans une cathédrale souterraine, ça brille, ça scintille de tous les côtés. Et donc on met un bon moment avant de rétablir un petit peu une sorte d'orientation pour pouvoir mieux se déplacer dans la cavité. On suit un cheminement de passerelles sur lequel sont également contraints, y compris les scientifiques qui étudient la cavité depuis 1998. Cette passerelle, elle a pour but d'éviter évidemment de marcher sur les sols archéologiques et de les abîmer, puisqu'il y a énormément d'informations pour les scientifiques sur ces sols. Et puis on arrive face au premier panneau orné, et là c'est un deuxième choc, j'allais dire, puisque la première émotion, c'est vraiment celle du milieu souterrain qui se suffit à elle-même d'une certaine façon. Mais lorsque commencent à apparaître les premières empreintes de main, par exemple, qui ont été réalisées par ses ancêtres directs, puisque ce sont nos ancêtres directement qui vivaient il y a 36 000 ans, à peine à 200 km de Marseille, eh bien on est ému parce qu'on reconnaît la trace de la paume de la main, la trace des doigts. Il y a même un petit doigt qui est toujours un petit peu recourbé, replié, que l'on retrouve de la même façon dans toute la cavité. Peut-être quelqu'un qui s'était cassé le doigt, tout simplement, ou qui avait un rhumatisme. Et puis les premiers dessins des ours des cavernes, qu'ils ont représentés certainement parce que cet animal devait les impressionner. Ils sont représentés de façon tout à fait parfaite, avec une maîtrise technique extraordinaire. Mais au-delà de la maîtrise technique, puisqu'ils ont tout su faire finalement avec leurs mains et avec les pigments qu'ils ont utilisés pour dessiner ces rhinocéros, ces félins, ces chevaux, au-delà de l'aspect purement technique qui est tout à fait remarquable, c'est le degré d'émotion, c'est la force d'évocation que dégagent ces dessins et qui est lié aussi à leur fraîcheur, puisque l'humidité dans la cavité a fait que ces dessins nous sont parvenus comme encore parfaitement frais, comme s'il venait d'être réalisé il y a quelques minutes. C'est ça qui vraiment frappe au premier regard. Et donc, on a l'impression que la personne qui les a réalisés vient effectivement à peine de quitter la cavité, alors qu'en fait, elle était là il y a 36 000 ans. Ouais. Et ça, évidemment, ça vous bouleverse parce qu'on est face un petit peu à nos propres origines.
Oui, il y a cette émotion de sentir cette présence humaine, mais il y a aussi l'émotion purement esthétique, parce qu'il y a vraiment des représentations magnifiques. Et surtout, et là on va venir peut-être aussi à la technique, à ce que permet le monde moderne à la fois de restituer d'une manière globale cette grotte pour pouvoir en offrir la visite à tous les publics et pas uniquement aux scientifiques, mais aussi par l'intermédiaire de la 3D et de ce livre, de voir comment les dessins ont été réalisés sur les parois, des parois en volume, dont les hommes de l'époque ont su parfaitement utiliser les ressources pour en donner une force esthétique encore plus grande. Et ça, c'est incroyable de voir à quel point ils maîtrisaient des techniques, et différentes techniques en plus.
Oui, c'est-à-dire qu'ils ont inventé le dessin, tout simplement. Ils ont inventé la peinture à Chauvet-Pont-d'Arc, parce que ce qu'il faut dire sur Chauvet-Pont-d'Arc, et qui fait que c'est une cavité tout à fait unique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en juin 2014, donc quasiment 20 ans jour pour jour après la découverte, c'est qu'on est face à des dessins tout à fait somptueux, magnifiques, maîtrisés techniquement absolument de manière parfaite, et à la fois quasiment les plus anciens connus. Et ça, ça a été une des premières surprises recherche scientifique dans cette grotte. C'était qu'on n'imaginait pas que des dessins puissent à la fois être aussi anciens et quasiment les plus anciens connus à ce jour, et à la fois aussi parfait techniquement et esthétiquement, puisqu'il y avait toute une théorie qui était héritée de André Leroy-Gourhan, selon laquelle, au fil de l'art, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, enfin, ou en tout cas de l'art pariétal paléolithique, l'art préhistorique, il y avait une lente évolution comme ça, une lente amélioration. Avec Chauvet-Pont-d'Arc, en fait, c'est d'emblée absolument parfait.
On met tout en cause.
Exactement. Donc il y a du dessin, il y a de la gravure, il y a de la peinture, il y a l'emploi de l'estompe, qui est cette capacité qu'ils ont eu à mélanger un pigment noir obtenu en faisant brûler des branches de pin sylvestre, donc pour obtenir des fusains de charbon de bois, en l'étalant sur la paroi un petit peu meuble, un petit peu molle, recouverte de calcaire blanc, et en étalant le noir et le mélangeant avec le blanc, obtenir ainsi des dégradés de noir pour renforcer la notion de volume qui était, comme vous le disiez, déjà suggérée par la forme de la cavité. Il y a des scientifiques qui parlent de cavernes participantes, c'est-à-dire que ce sont des hommes, lors de la préhistoire, qui ont parfaitement exploré le milieu souterrain, qui l'ont parfaitement compris, qui l'ont parfaitement analysé d'une certaine façon, et qui ont choisi de déposer certains animaux sur des formes préexistantes dans lesquelles ils voyaient certainement, peut-être, déjà ces animaux. Et Monique Pétral, qui a réalisé un autre facsimilé, celui de Lascaux 2, me disait un jour que, d'après elle, les artistes n'avaient plus qu'une d'une certaine façon à accoucher la paroi des formes qu'elles portaient en elles. Il y a donc l'estompe, comme je le disais, il y a aussi la représentation du mouvement. Ce sont des animaux en vie, en mouvement, qui ont été représentés, des bisons qui galopent littéralement sur la paroi, graphiquement plutôt. Un bison, par exemple, a été représenté avec 8 pattes au lieu de 4, alors qu'il s'agissait d'observateurs absolument parfaits de la nature. Ils étaient tout à fait capable de compter jusqu'à 4. Et ils ont décidé de représenter ce bison avec 8 pattes pour suggérer le mouvement. Peut-être en plus renforcé par la lueur vacillante de la torche qui éclairait le panneau. Et donc on est, pour un chercheur comme Marc Azéma, par exemple, face aux prémices de la bande dessinée, aux prémices du cinéma, donc la représentation du mouvement. Ils ont aussi représenté des animaux dans des positions anatomiques, éthologiques tout à fait précises. C'est pas n'importe quel lion ou n'importe quel cheval qui est représenté, mais c'est un lion à l'affût, c'est un lion mâle et un lion femelle lors de la phase qu'on appelle de pré-accouplement. Et donc il y a vraiment des observations très fines de l'environnement qui sont rapportées sur les parois. Pablo Picasso, le grand maître du XXe siècle, avait visité Lascaux en 1940 et il serait sorti de Lascaux en disant « nous n'avons rien inventé ». C'est-à-dire qu'il avait compris à quel point il était face à des semblables, à des artistes qui, comme lui, étaient capables d'avoir un projet artistique, graphique en tête et de le réaliser sur les parois avec leurs outils cognitifs finalement. Eh bien, à Chauvet-Pont-d'Arc, bon, Pablo Picasso, s'il avait visité
Chauvet,
il aurait certainement été encore une fois complètement sidéré.
Ouais. Alors parlons de ce projet ambitieux, ce pari du fac-similé, transmettre cette émotion dans une grotte entièrement reconstituée. Déjà, c'est colossal comme projet, et surtout ça a été fait d'une manière extrêmement minutieuse. On parlait des représentations de ces dessins sur les parois, mais il faut évidemment reproduire la paroi elle-même, toutes les cavernes, parce qu'il y a plusieurs salles, mais aussi le sol avec les eaux qui sont sur le sol, toutes ces traces dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même un projet colossal.
C'est tout à fait sans précédent, sans leur jeter de fleurs. Jamais auparavant, on avait copier de cette façon l'ensemble d'une cavité, l'ensemble d'une grotte souterraine, avec ou sans art pariétal. Et là, évidemment, il y a de l'art pariétal, et c'est ce qui fait toute sa valeur artistique et symbolique à nos yeux. D'autres grottes ornées ont été copiées, mais uniquement quelques panneaux ou quelques salles, quelques parties de grottes. Là, c'est l'ensemble d'une cavité qui a été tout d'abord entièrement numérisée. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Et donc, c'est toute l'importance dans ce projet du relevé 3D qui a été réalisé dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc, bien sûr, l'original,
c'est ce qui,
en 2010
c'est ce qui permet
et en 2011.
Aussi, c'est ce qui permet aussi cette réalisation fabuleuse. C'est-à-dire, sans la 3D, on n'aurait pas réussi
si
à faire ça.
On ne peut pas, dans un premier temps, restituer la complexité, comme vous le disiez, de tous les volumes de cette cavité. Il est impossible de réussir l'insertion des dessins dans ces volumes, parce que sinon on partirait dans des déformations, dans des décalages qui feraient qu'on serait face à une copie qui ne serait pas fidèle à l'original. Donc à partir de ce relevé 3D, tout a été rendu possible, c'est-à-dire, comme vous le disiez tout d'abord, la construction d'une grotte, et ça tombe pas sous le pas d'un cheval si j'ose dire, parce que une grotte, c'est quoi en vrai? C'est le résultat de millions et de millions d'années de géologie avec des eaux qui s'infiltrent sous la roche et qui creusent petit à petit ces formes incroyables. En 2 ans, construire quelque chose d'aussi complexe avec toutes les draperies, tout ce qu'on appelle les spéléothèmes absolument merveilleuses dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça qui a été rendu possible. Donc tout d'abord par ce relevé 3D, l'ensemble des volumes a tout d'abord été copié dans de la ferraille tout simplement, du ciment a été projeté sur cette ferraille qui portait déjà en elle les volumes complexes de la cavité originale, et puis dans d'autres ateliers ont été réalisés les panneaux ornés, leur copie, donc 27 panneaux ornés ont été copiés pour quasiment 400 animaux représentés. Et ensuite, ces panneaux, une fois réalisés, eux aussi bien sûr en 3 dimensions, ils ont été amenés sur le site même de la caverne du Pont d'Arc, puisque le nom qu'on donne au facsimilé, c'est la caverne du Pont d'Arc. Alors, il se situe à 2 km de l'original. Ouais. On est sur les hauteurs de Vallon-Pont d'Arc, alors que la grotte originale est vraiment le long de l'Ardèche, en bas dans la vallée. Et à l'intérieur de cet immense bâtiment dans lequel a été érigée cette caverne, cette grotte factice, eh bien, façon puzzle un petit peu, ont été apportés tous ces panneaux ornés qui ont été réalisés ailleurs, également tous les ossements d'ours fossiles qui ont une grande importance pour la compréhension de cette cavité, et ils ont été insérés comme ça, un petit peu comme dans un décor de théâtre, dans un décor de cinéma, pour obtenir cette réalisation, encore une fois sans précédent d'un point de vue architectural, d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue artistique, parce que ce sont de vrais artistes qui, pinceau en main, ont reproduit très finement le contour des chevaux, des bisons et des félins de la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Et donc c'est ça qu'on pourra voir à partir du 25 avril 2015, et pour avoir donc visité, eh bien, entre guillemets,
la fosse.
Ce facsimilé est une très grande réussite, parce qu'au-delà de la réussite technique, ce que je trouve aussi grâce à la scénographie, des éclairages assez intimistes qui ont été choisis, des bruits de goutte à goutte qui tombent comme ça et qui évoquent bien l'ambiance du milieu souterrain, la restitution de la température fraîche avec la différence de température avec l'extérieur qu'on sent bien. Il y a aussi des odeurs de terre et d'argile, l'humidité tout à fait. Et bien finalement, c'est toute une expérience un petit peu sensorielle qu'on vous propose de vivre et qui se rapproche de près de l'original, même si évidemment, bon, on peut pas non plus dire qu'on va visiter la grotte Chauvet-Pont d'Arc.
Oui, mais bon, de toute façon, c'est impossible si on n'est pas scientifique.
C'est compliqué.
C'est compliqué. Peut-être un mot sur le deuxième, objet augmenté. Qui est le livre. Il y a le premier objet augmenté qui est fabuleux, c'est la réplique. Mais un deuxième objet augmenté, c'est ce livre. Peut-être en 2 minutes, en dire quelques mots pour expliquer que c'est aussi une expérience assez magnifique, puisque effectivement, il y a des reproductions très très belles. Il y a quantité d'explications et scientifiques et artistiques et historiques. Mais on peut aller au-delà aussi, puisqu'on peut
explorer soi-même la grotte Chauvet, finalement. C'est ce qu'on a voulu offrir au lecteur. C'est un livre collectif, tout d'abord, qui a été réalisé avec Philippe Saïla, qui est mon ami et collègue photographe. Et Philippe a travaillé pour l'iconographie de cet ouvrage, main dans la main, avec l'équipe du cabinet Perazio Engineering, qui sont les auteurs du relevé tridimensionnel dont je vous parlais tout à l'heure. Et dans ce clone informatique de la réalité que constitue ce relevé en 3D de la grotte Chauvet-Pont-d'Arc, il est possible de s'affranchir complètement de toutes les limites physiques qui vous sont imposées dans la grotte Chauvet, oui. puisqu'on ne peut pas s'approcher des parois, on ne peut pas éclairer
on peut
les peintures
plus loin
comme
encore,
on voudrait.
Là.
Et donc là, ce modèle 3D, cet outil 3D, a permis de mettre en image de façon tout à fait somptueuse l'art des origines. On explique aussi dans ce livre comment a été construite la caverne du Pont d'Arc. Et enfin, c'est un bouquin qui permet d'aller plus loin que le print, que le papier. Vous savez qu'on dit souvent que le print et le numérique sont antinomiques. Peut-être que le numérique, l'e-book va tuer le papier. Au contraire, c'est un livre qui fait le pari qu'à partir des pages de ce beau livre qu'est le premier chef-d'œuvre de l'humanité, eh bien, on prolonge la visite par des contenus numériques en 3D à travers une appli pour smartphone et tablette qui fait qu'après avoir chargé l'appli, on peut photographier, flasher certaines pages du livre et sur l'écran de sa tablette, se promener soi-même dans la grotte Chauvet-Pont-d'Arc, choisir d'aller à tel ou tel endroit, écouter l'interview d'un scientifique et devenir son propre explorateur finalement de la grotte Chauvet. Et c'est aussi accessible via un site internet, lepremierchefdoeuvre.com.
Voilà, et c'est comme ça qu'on peut s'approcher au plus près des dents des ours des cavernes, ce qu'on ne peut pas faire sur place, ni dans la vraie, ni dans la fosse.
Oui, c'est important, les ours, on n'en a pas parlé, ils se partageaient la cavité avec les hommes. C'est-à-dire qu'on sait que les hommes ont réalisé leurs œuvres au printemps et en été, quand les ours n'y étaient pas, parce que les ours des cavernes, qui étaient un animal terrible, hein, qui vous croquait sur place, hivernaient dans la cavité à l'automne et en hiver, d'où la présence de milliers d'ossements d'ours sur les sols de la cavité.
Premier habitat partagé, finalement.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Pedro Lima. Peut-être juste un tout petit mot pour dire qu'il va y avoir une conférence ici à Marseille, à l'Alcazar, le 12 juin à 17h30,
tout à
pour
fait.
Ceux qui veulent en savoir plus, et qu'on peut se procurer ce livre dans toutes les bonnes librairies, publié aux éditions Synops, le Chauvet Pont d'Arc, le premier chef-d'œuvre de l'humanité révélé par la 3D, avec une préface d'Aurélie Filippetti, qui était notre ancienne ministre de la Culture dans des temps préhistoriques.
Et un site internet www.lepremierchefdoeuvre.com.
Merci beaucoup, Pedro Lima, et on va réentendre ces bruits de fauves et de gouttes.
Merci à vous.
Le 13h30.
Le 13h30.
Un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure, en direct sur Radio Grenouille, à 13h30. C'est irrégulier.
Et en direct.
Chouette, chouette.
Mais c'est toujours à la même heure.
Faut que je sois dispo, quoi.
Ouais.
88.8 FM.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com.